mélanger, elle dégueulait, elle mangeait. Et puis finalement, elle venait me voir parce qu'elle avait du fric à la fin du mois, elle dépensait tout son fric. Elle volait d'ailleurs, elle était aussi voleuse. C'était très rare chez les anorexies mentales qui ont en général une morale très élevée, un surmoi puissant. Et bien elle, elle volait pour pousser payer ses restaurants. Mais elle volait que dans la famille, elle volait que dans le magasin pour toutes les familles, mais elle volait pas, elle volait que juste dans sa famille. Mais c'était la première forme purement bulimique que j'ai connue, et je pense là aussi que c'est pas un hasard que son papa était comme ça super, super fiche. Alors voyons maintenant brièvement le chapitre de l'étiologie. Alors, bien sûr, de Brereton et compagnie, Mendelevitch de Bruxelles diront tout de suite, c'est génétique. Mais il n'y a pas, et là je suis tout à fait d'accord avec Jamais, qu'il n'y a aucun facteur, aucun argument pour dire que c'est génétique. Pourquoi il n'y a aucun argument? C'est un phénomène très connu là, en épidémiologie et en épidémiologie explicative. Pour tirer des liens familiaux entre malades, un argument en faveur du caractère génétique de la maladie, il faut savoir séparer, et c'est très difficile dans la pratique, des facteurs éducationnels liés au milieu et les facteurs génétiques. Or, les anorexies ayant très rarement des familles détruites, eh bien, ces facteurs sont toujours parallèles. Et par conséquent, le fait que certains sites à l'appui des thèses génétiques, comme par exemple la fréquence d'anorexie chez les jumelles, ou le fait qu'il y a des lignées de femmes anorexiques, la grand-mère, la mère et la fille, ne peuvent nullement avoir poids d'argument, parce qu'on peut très bien imaginer dans notre psychocone, la psychologie, que la mère, une ancienne anorexique, aura de telles perturbations séculaires de son attitude envers la nourriture, que sa fille va devenir anorexique à son tour, au moins une de ses filles, etc. Personnellement, j'ai connu, je ne sais pas si vous avez raconté ça la dernière fois, je ne vais pas l'adopter, j'ai connu deux fois une anorexie chez les jumelles, et puis une fois une anorexie, ou non, ça c'est pas une fois, c'est trois ou quatre fois, une anorexie chez deux sœurs qui n'étaient pas jumelles, mais qui étaient très liées entre elles, et qui étaient, elles avaient une anorexie pour deux, c'est-à-dire jamais les deux qui étaient anorexiques en même temps, et que quand une était anorexique, elle était malade, et sa sœur s'alliait à la famille, elle faisait partie du conseil familial et mangeait donc des salopes qui faisaient soutenir maman et en marre et tout. Et puis quand elle mangeait, elle avait trouvé son poids normal. Et puis quand la gamine, sous cette pression, finissait à manger bien quand elle prenait 5-6 kilos, voilà que l'autre s'effondre et qui dit qu'elle se paye l'anorexie à son tour. Il y a un cas comme ça qui était décrit, mais je n'ai pas la bibliographie, et malheureusement, par Claude, c'est consorte dans les années 1960. Il y a 20 ans, il a décrit d'une manière assez amusante un cas comme ça. Alors, bien sûr, il y a des jumeaux monozygotes et tout, mais tout ça, il n'y a rien de prouvé. Alors, comme facteur somatique, donc, qu'est-ce qu'il en dit, non, jamais dans l'encyclopédie, la nécrose hypophysaire est abandonnée, ça, je vous l'ai bien dit. Mais la question de la nature des troubles de l'hypothalamus reste posée. La majorité d'auteurs considèrent qu'il y a un trouble uniquement fonctionnel et qu'il n'y a pas de trouble lésionnel. Et pour Jamais, donc, mais ce n'est pas étonnant, il dit que la dysfonction hypothalamique est secondaire à un trouble psychique primaire, soit directement, soit comme conséquence de la dénutrition. Ce qui est intéressant, donc, c'est ce que je vous ai dit déjà, que l'arrêt des règles est très précoce dans les anorexies mentales, et que je j'ai eu à soigner des gamines, et c'était des très gros succès que j'ai eu. Et je ne peux pas savoir si ces succès étaient dus au fait que je faisais la prévention vraie ou que c'était des formes qui spontanément auraient guéri même sans mon intervention, parce que le succès était tellement rapide que je me suis demandé que je me suis dit que c'est pas le vrai, je ne voulais pas croire que ce soit des vraies anorexies mentales que j'ai pu tirer d'affaires civiles. Alors là, c'était des gamines que j'ai eu comme ça 3 ou 4 qui m'ont été envoyées pour une aménorrhée seulement, avec un amaigrissement d'1 ou 2 kilos. Donc ce n'était pas des aménorrhées. Hein. Eh bien, ça s'est arrangé souvent très très rapidement, et j'ai fait très content de moi. Est-ce que c'était mon mérite, ou est-ce que c'était déjà le génie de la maladie, ça je n'en sais vraiment rien. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des formes qui peuvent commencer par une aménorrhée et un début d'anorexie, et il semble que ce serait plus facile à ce moment-là, sans l'isolement, uniquement par la psychothérapie d'un petit adolescent, à en arriver à bout. Mais, est-ce vrai, j'en sais rien. Est-ce que c'est les débuts des formes plus graves, ou est-ce que c'est des formes spontanément plus graves, ça, bien entendu, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que, il y a des formes qui sont décrites partout avec arrêt de croissance. Ça, c'est au contraire des formes très graves. Alors, ces formes avec arrêt de croissance, alors là, il y a donc 2 explications. Une, que c'est nutritionnel, qu'elles sont dénutries et que la croissance s'arrête. L'autre, c'est que, là aussi, l'hypothalamus, tout ça, c'est très très l'un de l'autre, et qu'il y a un arrêt de GH, quoi, de la somatotropie. Moi, personnellement, il y a peut-être une chose qui est intéressante, c'est que quand je pense aux grandes veines que je connais, qui sont des anorexies mentales de taille élevée, et même quand on lit leur histoire, elles sont tombées malades à 15-16 ans, 17 ans. C'est-à-dire dans la deuxième période d'adolescent, après avoir eu déjà pendant 2 ans, ou 1 ou 2 ou 3 ans les règles, et comme vous savez très bien que chez la jeune fille, la croissance s'arrête à peu près 2 ans après l'apparition des règles. Donc ces filles-là que je connais dans ma tête, j'en ai plein, qui ont une taille normale ou élevée, je crois, tant aux effets des statistiques, mais la plupart d'elles, mais pas toutes, ont commencé leur anorexie une fois la croissance staturale terminée. Par contre, moi, dans ma vie personnelle, je connais une anorexie qui est pas naine, mais qui est vraiment toute petite, même maintenant, et bien elle a commencé à 13 ans. C'est une jeune fille que j'adore d'ailleurs, qui est assez géniale, je suis toujours en contact avec elle. Ça veut dire qu'elle est guérie, hein, c'est pas un succès, je ne la considère pas du tout comme succès parce que les transferts, ça ne suffit pas, elle est toujours aussi anorexique. Elle est entrée dans les. Elle n'est pas naine quand même, elle est trop grande pour être naine, mais elle a un arrêt de croissance total, elle doit mesurer 1,52 m. Elle en souffre beaucoup dans son amour propre, on a beaucoup dit qu'elle est jolie et tout, mais elle est 22. Maintenant, elle a 22 ans, je crois. Et bien, elle a commencé à peine 13 ans. Elle a eu ses règles 2 ou 3 fois, et du coup, elle est tombée malade presque immédiatement après sa puberté, qui est une maladie du début de puberté. Et c'est là que j'étais un peu choqué, parce que dans nos statistiques avec la jeunesse, nous avons trouvé, et probablement ce que vous pouvez voir dans l'œil, je ne crois plus du tout à ça, nous avons trouvé et nous avons écrit que les anorexies précoces sont plus bénignes que les anorexies tardives. Et plus ça commence tôt, mieux ça vaut. Il y a peut-être une vérité statistique là-dedans, mais ne croyez pas que toutes les anorexies précoces soient bénignes. Je pense en particulier à ce jeune fille-là, et qui était bien précoce, et plus tôt, je l'ai vu très vite après le début, il n'y avait pas eu de miracle pour un quart de sou, et elle est toujours anorexique des années après, toujours vierge, toujours aménorrhéique et tout. Et, non, je pense qu'elle n'est plus aménorrhéique, puisque je l'ai eu, peu importe, mais en tout cas, il y a eu là un arrêt de croissance très grand, et ça montre bien, du point de vue étiologique, les problèmes de ça. Maintenant, il est intéressant de savoir, là, c'est le moment de le dire, que les tableaux des gens sous-alimentés, hyponutris, dénutris, et les tableaux des anorexies mentales est très différent, même sur le plan psychologique, et ça ne ressemble à rien. Tous ceux qui ont connu les troubles de la déportation, les troubles de la guerre, les troubles du siège de Leningrad ou de l'occupation, et bien, même ceux qui mouraient de faim, ils ne mouraient absolument pas dans les tableaux de l'anorexie mentale. Et la super différence, il y a une chose commune un peu, c'est que même dans la... Ah donc on peut l'attribuer cela à la dénutrition elle-même, c'est qu'il y avait un stade de rêvasserie et de plaisir quasi-érotique que les anorexies mentales récentes, parfois extrêmement sensibles, et que les gens de la déportation ressentaient à la phase terminale de leur dénutrition. Et que c'est un peu comme les gens qui meurent de froid, vous connaissez la jeune fille avec les allumettes d'Andersen, avec toutes ces jolies hallucinations et sa façon douce et plaisante de mourir. Eh bien, la mort de faim n'est pas une mort aussi atroce que raconte Dante dans son enfer, où il dit que c'est une mort atroce. C'est pas vrai, c'est atroce pour ceux qui regardent, pour celui qui meurt, c'est désagréable au début, mais après on s'habitue, on meurt après gentiment, tout comme ça, on n'y pense pas. Alors ça, c'est un peu en commun avec l'anorexie. Par contre, une différence extraordinaire, c'est la résistance psychologique et littérative. C'est que les gens qui sont dénutris d'une manière indépendante de leur volonté, ils sont très rapidement complètement avachis, et on connaît bien ces masses de pauvres couchés sur les pavés à Calcutta, aux Indes, en Afrique, à Bahia et tout ça, alors que nos anorexiques, elles sont... Et comme il dit à Justine, jamais ça m'a plu cette phrase que j'ai eue, il y en a qui arrivent à mourir en pleine activité. C'est-à-dire, elles s'agitent à 28 kilos, à 27 kilos, il y en a qui vont à l'université suivre leur cours, et on a vu quelques cas de mort dans le métro, pendant une activité, ça faut le faire. Hein. Elles ne veulent pas renoncer à leur activité scientifique, éducationnelle, professionnelle, quel que soit leur état d'amaigrissement, ce qui est une grosse différence avec les dénutritions non volontaires, et qui plairait souvent à notre ami ici, parce que ça montrerait, contrairement à Changeux, que même si nous sommes une machine neuronale, on est quand même une drôle de machine pour que cette machine puisse se réfléchir sur elle-même et changer tellement sa façon d'être selon la signification des choses et selon ce que nous croyons être notre libre arbitre, même si ça peut. Alors, oui, ce qui est encore intéressant, par exemple, si vous regardez la politique, les affamés pour des raisons politiques, par les grèves de la faim, et bien là aussi c'est assez différent des anorexiques. Parce que ces gens-là, le jour où ils mettent fin à leur grève de la faim, ils se mettent à bouffer très rapidement. Et moi, je me rappelle tous les petits maoïstes, quand ils terminaient leur grève, ben, en une semaine, ils étaient gentiment rémutris, ils ne faisaient pas de chichi. Alors qu'une anorexie mentale, même si elle est convaincue, même si elle veut grossir, même si elle va mieux, il faut des semaines et des mois pour qu'elle reprenne l'appétit et qu'elle... Et même toute sa vie, elle a des relations spéciales à la nourriture, vous y reviendrez. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, à l'opposé, donc, de cette étiologie organique, on peut mettre en avant la psychogénèse. Alors là aussi, je crois qu'il faut faire très attention. Et j'admire ici le style de Jamais qui fait un codicille là au début, une mise en garde avec laquelle je suis profondément d'accord pour dire qu'il ne faut jamais parler des causalités linéaires, même s'il y a corrélation. Mais c'est vrai pour la biologie, c'est encore plus vrai pour la psychologie. Et c'est ça que nos psychocons, surtout quand nous sommes psychanalytiques, oublient un peu trop souvent. Et que ce n'est pas parce qu'on a une amie emmerdante et qu'on est anorexique, qu'on est anorexique parce qu'on a une famille emmerdante. Ça peut être sinon une coïncidence, en tout cas le résultat d'une interaction, le résultat de choses beaucoup plus subtiles, et même là, il s'agit de ne pas trop culpabiliser les parents. Ceci dit, je vous dis ça en théorie parce que je suis très fort en théorie, en pratique, c'est très rare que je n'ai pas eu envie de tuer un ou deux membres de la famille de l'anorexique. Ah, faut que je le dise aussi, parce que je suis honnête, c'est toujours des drôles de gens, ou c'est la mère qui est affreuse, ou c'est le père qui est affreux, ou c'est tous les deux qui sont affreux, sans vous dire les bêtises. Alors, ça, je vous l'ai dit franchement, mais je m'autocritique en permanence, et j'essaye quand même en vieillissant d'avoir des relations meilleures même avec ce genre-là, et c'est pour ça que je pense que les méthodes systémiques et tout ont quand même un avenir là-dedans, et que quand vous, et puis j'ai remarqué, et ça me paraît surtout très important, que mes succès et mes échecs, et que j'ai jamais eu de succès avec la nana, avec l'anorexie, quand je me suis trop laissé entraîner dans la bagarre avec un des membres de la famille. Donc, ces sentiments contransférentiels négatifs que nous éprouvons avec une très grande facilité envers les parents des anorexiques doivent être très sévèrement maîtrisés dans notre propre économie psychologique parce que je suis convaincu qu'ils sont un facteur qui entrave la guérison. Et ça, je vous le dis de ma, pas par les livres, mais de ma propre expérience parce que, comme je vous l'ai avoué, dans ma vie, j'ai eu très souvent des contre-transferts violemment négatifs avec ce drame-là. Et moi, quand j'arrivais à les maîtriser, ça se passait pas trop mal. Je pense surtout à lui, comme femme, là, qui est diabolique, vraiment. Et bien, c'est arrivé, je suis arrivé à me faire procéder jusqu'à la trône, d'avoir une relation, une réunion triangulaire entre la nana, la mère et moi, où c'était vraiment les tableaux, les tympans d'une cathédrale romane, où c'est, moi, je me prenais pour l'ange et la mère pour le diable, elle pensait exactement au contraire, bien sûr, et nous nous arrachions la fille, moi pour la sauver, elle pour la tuer, et bien entendu j'ai perdu la bataille, et puis la fille n'est pas morte, elle est toujours anorexique, elle n'est plus de voir, elle est toujours de chèque de ma vie. Et quand j'ai analysé cet échec après, c'est évident que cet échec était dû au fait que je n'ai pas du tout su surmonter mon contre-transfert, je n'ai pas du tout su comprendre la profondeur de ces liens fusionnels entre la fille et son horrible mère, et que je ne savais pas que, ou bien on fait l'internement ou une séparation bureaucratique, ce qui est contraire à mes principes. Ou alors on joue, pour bien jouer, il faut sortir toute la méchanceté de son corps et de son âme, même envers les femmes. Donc, pour ces histoires de famille, éthiologie familiale, moi je me suis fait une théorie que je veux vous vendre, qui ne parle pas ici, jamais n'en parle pas, et qui va peut-être... que je n'ai pas vérifié, bien sûr, dans tous les cas que j'ai connus, loin de là, mais que j'ai remarqué dans pas mal de cas d'anorexie, et que je n'ai pas décrit. Et, alors, c'est un modèle que j'avais appelé le modèle des clés de voûte. Vous savez, dans les cathédrales, il y a comme ça une clé de voûte, tous les bâtiments qui sont là-dessus. Eh bien, j'ai souvent remarqué une constellation familiale très spéciale et assez caractéristique des ces filles. Mais pas spécifique, parce qu'on le trouve aussi ailleurs que dans les anorexiques, bien sûr. Alors c'est une atmosphère où les papas et la maman s'entendent mal. C'est peut-être assez banal, vous avez vu que c'est le fond de la majorité des ménages qui ont vécu ensemble jusqu'à avoir là une fille d'âge d'avoir une anorexie. Donc ça, c'est pas spécifique. Mais ils s'entendent mal, ils sont la veille de se séparer, ils s'engueulent, ils s'écoquifient, ils se détestent, ils veulent se séparer, et puis la fille, avec un sentiment à la fois magique et infantile, pense, comme beaucoup d'enfants pensent lorsque leurs parents s'entendent mal, elle pense premièrement, elle pense que c'est de sa faute à elle. Donc elle prend sur elle la responsabilité de cette mésentente parentale où en fait Dieu pour rien parce qu'il s'entend mal, parce qu'il fait mal, parce que c'est le rage, parce que c'est des questions, il y a mille raisons pour ne pas s'entendre, donc c'est bon pendant des gens arrivent à s'entendre quand même. Et alors, la faute à Dieu doit être de sa faute. Donc elle est triste, elle est déprimée, elle s'arrête de bouffer. Elle s'arrête de bouffer pour n'importe quel prétexte, pas du tout directement. Parce qu'à ce moment-là, elle a une déception sentimentale, un échec scolaire, bref, elle prend un prétexte d'appel, elle s'arrête de bouffer. Qu'est-ce qu'elle voit là-dedans? Elle voit du coup que les papas et maman ont oublié qu'ils s'entendent mal et ils font bloc contre elle pour la faire bouffer. Alors c'est là que la clé de voûte apparaît. C'est que cette gamine raison. Et ça, c'est pas moi qui ai vu, j'ai eu des filles qui me l'ont dit, mais c'est pas. Un, je ne pourrai jamais survivre à la séparation de mes parents. Je ne veux pas que papa s'en aille, je ne veux pas que maman s'en aille, parce que j'ai vu ça des deux côtés. J'ai vu des familles où c'est le père qui voulait tout le temps, et j'ai vu des familles où c'est la mère qui voulait tout le temps. Eh bien, ça, c'est pas possible, c'est pas admissible, j'en mourrai. Et puis maman en mourra, ou papa se suicidera, il deviendra fou, c'est trop cruel pour eux, je les aime tous les deux. Ensuite, deuxième truc, j'ai remarqué que depuis que je suis malade, ben mon Dieu, ça va mieux. Et puis que voilà que la maladie s'insère dans cette dynamique familiale comme une espèce de ciment où c'est que j'ai appelé la crise. Et il n'est pas question que j'ai guéri. Parce que si j'ai guéri, la bagarre va recommencer. Ils ne vivent que pour ma maladie. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et là, je peux vous raconter une anecdote qui m'a vraiment confirmé dans cette histoire, dans cette pathologie, c'est que j'ai connu une fille chez qui cette pathogénie était absolument, cette étiologie, cette dynamique était absolument évidente, parce que le père a quitté la mère avec une gourmandine et tout, et coiffeuse même. Et alors, et il est revenu quand la fille est tombée malade, et puis la mère voulait à aucun prix qu'elle fasse s'en aille, etc. Et bien, j'ai eu un énorme succès, de la petite avec cette fille. Elle commençait à remanger, elle était presque à la veille de guérir. Et puis, tous les liens familiaux se détendaient, l'ambiance se détendait. Tous ces troubles extrêmement nombreux qu'elle avait à côté de son anorexie mentale ont cédé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le papa a profité de cette amélioration de sa vie pour peut-être aller avec la bougamine coiffeuse. Fait pour lui. Et alors là-dessus, qu'est-ce qui arrive? La mère et la fille dit, papa, il a bien fait de se sauver. Parce qu'il aimait l'autre, maman, elle est vraiment chère. Mais, en même temps, la maman lui disait, tu ne veux pas aller voir ton papa, parce que ton papa c'est un salaud, une ordure, il m'a abandonné, pauvre malheureuse. Maintenant nous sommes deux pauvres malheureuses et tout, comme tu le souviens et tout. Moi je t'aime, ton papa est un salaud, il t'aimait, il ne s'est pas parti. La fille avait un édit gros comme je ne sais pas quoi, et elle voulait voir son papa salaud ou pas salaud avec la coiffeuse ou sans coiffeuse. J'étais déjà jaloux de la coiffeuse, c'est la même des. Et alors, résultat, elle est rechutée complètement. Elle a si bien rechuté que le papa est revenu au bout de 6 mois ou 8 mois, et puis elle m'a quitté, c'est l'échec de ma mouche, l'échec de ma vie. La situation est reprise, elle a réussi à faire toutes ses conneries, et la famille s'est reconstituée autour de sa maladie. Les officieux de son confrère avaient attendu encore deux ou trois mois avant de foutre le camp avec sa gardine, la fille était guérie. Parce que c'était pas loin.
Il n'y a jamais eu de patiente avec une famille monoparentale. Donc ça t'implique qu'il y a toujours un couple
qui est en train de chercher des anorexies mentales monoparentales, je crois. Bon, j'en ai jamais vu. Donc ça doit y avoir du papa-maman.
Donc là, pour la mère, était morte quand elle avait 8 ans.
Non, c'est pas presque. J'ai dit, excuse-moi, j'ai dit des bêtises. Dans notre statistique avec la jeunesse, au contraire, on avait un honnête pourcentage de familles monoparentales. On disait même qu'il y a eu plus d'orphelins chez nos anorexies que dans la population générale de cet âge. Encore à l'époque, on ne connaissait pas bien les tableaux des lycées, on ne savait pas très bien combien d'orphelines à cet âge-là, on connaissait rien à l'épidémiologie par une étude de base. Mais, donc ce que tu dis là, à l'époque, ça me paraissait une évidence. Mais les hasards font que depuis 15 ans, 20 ans, j'en ai vu aucune qui soit monoparentale, alors que ça pouvait oublier. Parce que quand c'était la théorie du père absent qui dominait dans la pathogénie de l'anorexie mentale, où on disait mère dévorante, situation diabique, bref, tous les bafouilles, la canonanique, appliqué aux enfants psychotiques, il était appliqué sans aucune nuance à des anorexies mentales. On se demandait pourquoi les uns devenaient psychotiques et les autres anorexiques. Et puis, il y avait donc une chose qui étayait cette idéologie, et donc j'étais co-auteur aussi. On disait qu'il y a plus d'orphelines, il y a des pères falots, des pères inexistants, des mères plus puissants. Et bien, moi, ma pratique depuis la thèse avec la jeunesse est complètement différente. D'abord, je ne vois pas beaucoup de monoparentales, presque toujours des familles, et les pères sont très loin d'être absents. Et il y a pas mal de pères paranoïaques là-dessus, des pères dominateurs, des pères assez affreux, des pères stoules, des pères mères, tout ce que vous voulez. Moi, je pense maintenant, et si je suis arrivé à inventer ma théorie des clés de voûte, c'est un peu en réaction contre les théorisations qui ou bien mettaient tout sous les eaux de la mer, ou bien d'autres, comme Clément Launay, à un certain moment, au congrès de Strasbourg, il y avait un congrès, il y avait des topos consacrés aux pères des anorexiques. Alors là, on a trouvé que tout est de la faute du père. Mais je pense que tous ces raisonnements étaient intrinsèquement débiles et pervers, et pour ça que j'aime beaucoup les travaux de Mara Selvini, où elle ne dit plus c'est la faute du père, elle dit plus c'est la faute de la mère, elle voit tous les systèmes. Et quand je parle des clés de voûte, vous voyez, je ne vous ai pas du tout dit que c'est la femme qui est coupable, ou que l'homme est coupable, je m'en fous, c'est pas là le problème. Ce qui compte, c'est que dans la tête de la fille, elle se croit indispensable à sauvegarder l'unité de la cellule familiale. Et je crois que c'est ça le truc que j'ai remarqué, mais qui est loin d'être constant, mais que j'ai vu assez souvent chez mes gamins. Et en plus, peu importe que ce soit vrai ou fantasmatique, hein, je connais une famille en particulier, il y a une anorexie mentale que je suis actuellement d'ailleurs, elle est convaincue de cela, alors que là j'ai pu avoir des parents, chacun pour sa part, et bien je leur ai posé un peu ce problème, ils ont rigolé, ils ont dit ça avec beaucoup de bonne foi, en disant que ce n'est pas du tout leur problème, que tout est dans la tête de la gosse. Quoi. Non. C'est vrai que la mère a souvent émis des désirs de partir, mais qu'elle est la femme qui n'a jamais dit que d'écouter son mari. Surtout si elle s'arrête, si elle ne le fait pas parce que le mari a mis trop d'argent. Elle, elle avait marre de vivre sous les dos de mari, elle voulait se libérer, elle voulait, elle n'a jamais rien fait, elle a fait peur à la gauche. C'était pas tellement sérieux. Et bien après la gauche, elle a fini par apprendre des années après que ses parents baisaient très très bien, au contraire, et bien ça aurait dû la guérir, mais c'était trop tard, ça l'a pas guéri. Et tu trouves que ces choses-là, quand ça passe uniquement par la cervelle, ça n'a aucune... par les systèmes cognitifs. actif, ça n'a aucun pouvoir guérissant. Voilà. Alors après, on a fait donc, on est toujours dans la psychogenèse, on a parlé de la personnalité très morbide de l'anorexique. C'était aussi tout à fait légitime. Il y avait tous ces travaux sur la mère, tous ces travaux sur les pères, donc je vous fais grâce, parce que c'est pas très intelligent à mon avis. Alors il y a aussi des travaux sur la personnalité très morbide. Et là aussi, je trouve que Jamais a tout à fait raison de traiter un peu d'en haut ces travaux, parce que c'est dangereux. Une chose est sûre et certaine, et ça vous pouvez la noter, il n'y a pas de continuité entre l'anorexie du nourrisson et l'anorexie mentale d'adolescent. Alors ça, vous trouvez ça uniquement chez des gens de ces 10 psychanalystes, parce que même les vrais psychanalystes ne l'écrivent pas, et Wim Kessenberg ne l'a jamais écrit, Kessler ne l'a jamais écrit, ceux qui connaissent vraiment les problèmes, mais certains patapsychanalystes des banlieues, dans les enseignements très primaires, ils disent qu'il y a des rapports entre les deux, mais c'est complètement faux, statistiquement, c'est zéro. Les gosses qui font des anorexies mentales, des nourrissons, ne font jamais d'anorexie de jeune fille, et au contraire, parmi les gosses, parmi les anorexies mentales de jeune fille, il faut se lever tôt pour trouver des antécédents d'anorexie des nourrissons. Donc la fibre est très faible, et très exceptionnellement, presque jamais, les gosses qui ont eu affaire avec, qui ont eu des troubles anorexiques avant la puberté. Et c'est pour ça que les vieux auteurs disaient, et c'était du point de vue de la clinique simple, pas idiot du tout, que l'anorexie, elle apparaît comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et c'est aussi l'impression des familles. Alors c'est là que ça devient plus rigolo, parce que les psychiatres ne font jamais la boule, elle est énorme, et ils peuvent retomber sur leurs pattes avec la personnalité prénomée. Quand vous écoutez les parents des anorexiques, ça je l'ai fait tout le temps, ils vous diront tous, mais notre fille docteur, c'était une gosse idéale. On n'a jamais eu d'histoire avec elle, on ne l'aurait jamais amené ni chez des psychologues, ni chez des psychiatres. Comment se fait-il, docteur, que c'est tombé sur vous et sur cette petite bichette? Et effectivement, on pourrait dire que comme enfant, dans les discours de leurs parents, c'est des filles d'une parfaite santé mentale dans les discours de leurs parents. Alors quand les psys écoutent ça tout le temps, ils peuvent avoir deux attitudes. Une, celle des vieux psychiatres du 19e siècle, qui est aussi la mienne, hélas, c'est de dire effectivement, l'anorexie mentale, c'est une maladie de l'adolescence qui peut attomber n'importe quel enfant, même ceux qui sont les mieux portants. Mais c'est une attitude très naïve. Parce que les psys plus affinés que nous, un peu psychanalystes, ils font aussitôt, ils renversent la situation et ils disent que tous ces gosses sont très pathologiques dans le sens où ils ont tous des fausses et ils ne vivent que pour plaire à leurs parents. Et quand on a lu ça, quand j'ai lu ça, quand j'ai revu toutes mes anorexies comme ça, je me suis dit, c'est parce que comme ça, que c'est moi qui étais un peu plus naïf. Et effectivement, jamais les dit, ça correspond un peu à une vérité. Quand il dit, je ne sais plus où est-ce qu'il dit ça, mais... Pardon ?
L'anorexique lui-même, bon, il a touché...
Comment le vit ça, lui ?
Voilà, parce qu'il est en souffrance, quand même.
Eh bien, il vit ça, il ne dit pas que mon enfance était heureuse. Ça, c'est... Quand les anorexiques parlent de leur enfance, c'est ça.
C'est leur enfance faite à ses parents, ils ont fait pour eux.
Comment ?
Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ça a été pour ses parents, mais est-ce qu'ils sont satisfaits, ils sont satisfaits
non, pas de l'esclavage? C'est pour ça que je trouve cette théorie pas idiote du tout, et je vous la donne, pas comme mienne, mais comme une théorie qui me paraît pas bête du tout. Alors je veux vous dire ça, comment il est décrit, c'était pas mal décrit. Thank you. sais pas si c'est un autre endroit qui dit ça, mais en tout cas, retenez qu'il y a un monsieur, je ne me souviens plus son nom, que j'en cite ici quelque part, et qui dit que les anorexiques, elles ont, avant la puberté, elles ont un peu de faux self. Elles ont un faux self, c'est-à-dire que elles ont un faux self, c'est-à-dire qu'elles ont des problèmes qu'elles ne vivent pas pour elles, mais qu'elles acceptent une répression de la sexualité infantile. C'est des gosses qui ne sont pas masturbées, des gosses qui n'ont pas fait les seins. C'était des petites filles sages, c'était toujours des bonnes élèves, toujours proprettes, vraiment des petites filles modèles. Et c'est sûr que quand on entend les mères raconter comment elles étaient petites filles modèles, on s'est dit, avec cette voix tombée malade pour être petite modèle pendant si longtemps. Et puis, dans ce réseau familial, il dit très bien que dans cette famille, ce qu'on trouve, c'est l'absence d'autonomie des individus. C'est vrai que c'est des familles très liées. C'est vraiment le contraire des familles des délinquants. Et par contre, ça ressemble à des familles de certains toxicomanes de la bourgeoisie. Et c'est là qu'on pourrait en discuter, mais moi, plus je connais maintenant les toxicomanes, je me dis que ça se ressemble vachement. Pas que des banlieues, pas que pas la toxicomanie sociale, mais la toxicomanie dans les milieux un peu huppés. Là, il y a des garçons, bien sûr, ça ressemble vachement aux anorexiques, et je me suis d'ailleurs demandé si du point de vue de mon compte transfert, si j'aime tellement le jeune toxicomane, si ce n'est pas parce que je sens chez eux quelque chose qui me fait penser aux anorexiques. Comment? Non, c'est la famille. L'ambiance familiale est le même type, et puis cette espèce de l'attachement pathologique dont on parlera la prochaine fois, des unes pour la drogue, des autres. L'attachement pathologique aux symptômes. Le toxicomane aime sa maladie et l'anorexique, elle aime sa maladie. Et c'est oral parce qu'on absorbe, que tu absorbes par les veines ou que tu siffles ou que tu ne bouffes pas. C'est des maladies de l'oralité, tout ça. Et puis dans les familles, on trouve souvent, dans les familles, on voit très souvent que les drogués sont horriblement dépendants de leurs parents, même si au premier abord, ils disent « j'ai rompu avec ma famille, je ne veux pas les connaître, je veux voir des salauds, des affreux ». Et quand on regarde de près, je ne pense pas du tout, ils sont dans la famille, au-delà des oreilles, c'est la famille qui leur achète la drogue, qui leur donne l'argent, et qui les tue. Ah, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et là, il est temps de bouger.
C'est pas vrai pour massivement, c'est pas vrai. Dans les chiffres.
Dans les chiffres, sur les toxicomanes, c'est moins vrai. Mais avec les toxicomanes, certaines catégories qui sont des toxicomanes de gens riches. Des toxicomanes de la petite moyenne et grande bourgeoisie. C'est pas vrai avec les toxicomanies des cocoles au col, du prolétariat, des banlieues, des enfants d'immigrés, tout ça, où il y a des familles détruites, au contraire.
Est-ce que vous décriviez la fille du restaurateur, ça fait effectivement penser à une conduite compulsive
de toxicomanie,
avec en plus même une petite délinquance après
ouais, la oui, absolument, oui, 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 tout à fait vrai. Bon, eh bien, ceci donc pour cette personnalité prémorbide, retenez-en apparente indemnité des troubles, hypothèse d'un faux self, d'une adaptation programme aux parents, absence d'anorexie des nourrissons. Et puis, comme personnalité, et puis, il n'y a pas de doute que les facteurs conjoncturels, on peut quand même pas nier que l'anorexie est une maladie dès la puberté, que c'est cette irruption de la hormonale psychologique de la sexualité, c'est la déception peut-être de certains fantasmes, de certains espoirs, c'est peut-être la trouille devant cette nouvelle vie fantasmatique, et que on peut dire ici, en parlant des anorexies, on pourrait dire d'une manière un peu imagée et exagérée, que c'est des filles qui n'ont pas pu surmonter les traumatismes de la puberté et de l'adolescence. Et alors, dans cette phrase un peu philosophique, on peut retrouver par contre des petits faits contingents. Alors, on voit très souvent des causes apparentes des anorexies. Mon jeune m'aimait pas, ou papa m'aimait pas, ou mon grand frère m'a fait des bouches pipi, ou parce que les frères c'est important, mais ça je crois que vous en avez parlé déjà il y a 15 jours, du frère, je ne reviens pas, ou alors je me suis décollé à mes études, j'ai trop travaillé, etc. Bon, je n'ai plus parlé comme ça pour vous savoir. Si vous voulez discuter un peu, je suis à vous, mais je n'ai pas envie de répartir. Qu'est-ce que je peux vous faire? Je vais vous dire une lettre assez qui m'a donné que j'ai là par hasard. Il me paraît assez. C'est pas les panacées de travailler. Je suis toujours aussi seul. Je rentre le soir dans ma 25e année cassé parce que je ne suis pas du tout fonctionnaire et que je ne parle pas quand le boulot n'est pas fini. Perfectionniste, dans mon boulot bien sûr, comme pour les études. Mais pour moi, je me néglige. À 25 ans, j'ai vu comme si j'en avais 5 ans. Si j'ai crevé ici, personne ne me découvrirait avant plusieurs jours. J'attends. Il y a des jours où je me dis, c'est aujourd'hui, ce sera aujourd'hui le coup de foudre. Plus tard. Déjà quand j'avais 15 ans, je n'étais ni anorexique, ni maigre comme un squelette, mais plutôt bien enrobé. J'attendais les grandes dames. J'étais complexé de ne pas avoir des petits copains. Et je n'étais pas non plus satisfaite de mon corps trop grand à mon gré. Mais je ne suis jamais arrêté, ne suis jamais arrivé à faire un régime. Les habitudes alimentaires à la maison ne sont pas particulièrement légères. C'est une famille de gros bouffeurs, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Plus tard, vers 15-16 ans, dans mes tentatives de régime, lorsque j'avais craqué devant les crèmes au chocolat que ma mère avait acheté, je me donnais des claques le soir dans mon lit. Là, c'est déjà une conduite pré-anorexique, c'est-à-dire c'est plus dur parce qu'on a mangé un petit peu mon chocolat. J'étais révolté parce que les copines dévoraient sans prendre un gramme. À la maison, il fallait, quand j'étais gosse, même quand j'étais gosse, finir mon assiette. Et ma mère était fière quand j'avais tout en blouse. Ma grand-mère, qui n'est plus là, nous aimait, etc. C'est sa manière de nous montrer son amour, c'était de nous acheter les choses qu'on aimait le plus à manger. C'était comme un lit. Même quand je suis tombé malade, elle n'a rien compris, bien sûr, mais essayait de m'aider dans ma déprime, a su à sa manière, elle respectait mes habitudes alimentaires bizarres, incompréhensibles pour elle, sans jamais me forcer. Alors ça, c'est une. Et puis l'autre qui va mieux, celle-là, elle est en fait, à mon avis, elle est quasiment guérie, celle-là.